Et c'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Kylian Couté. Bonsoir. Contradiction sur certaines mesures prises au sein du gouvernement par certains ministres, mais cassées par le Premier ministre. Le cas le plus récent est celui de la SONA, dont l'administrateur délégué général et le président du conseil d'administration ont été relevés de leur fonction par le ministre du portefeuille et aussitôt réhabilités par le Premier ministre. Comment expliquer cette situation? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission Maître Sélékhé Tounda Yakatende. Il est député national de la majorité, membre de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale et membre du comité exécutif du PPRD chargé du processus électoral. Il est avec moi dans ce studio. Bonsoir Maître Tounda.
Bonsoir madame.
Jean-Lucien Boussa, député national de l'opposition, vice-président de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale et secrétaire général adjoint du MSC chargé de l'idéologie et programme, aussi avec moi dans ce studio. Bonsoir honorable.
Bonsoir madame.
Professeur Moïla Tchiembe, analyste politique et directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Il est en ligne. Bonsoir professeur.
Bonsoir madame.
Nous avons contacté certains membres du gouvernement et de la primature pour participer à l'émission. Malheureusement, ils ont décliné l'offre. Vous êtes très nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Faustin Mumbere de Kiwanja au Nord Kivu. J'aimerais savoir qui, du Premier ministre et du ministre des Tutelles, a la compétence de révoquer un mandataire public. Bonsoir Luana de Mbandaka à l'Équateur. C'est en vertu de quelle procédure administrative que certaines décisions ministérielles doivent faire objet de régie par le Premier ministre? On a l'impression que toutes ces décisions ne sont pas discutées au sein du Conseil des ministres. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM et à travers le monde sur www.radio-okapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Y a-t-il dysfonctionnement dans la prise de décision par les membres du gouvernement central à Kinshasa? La question mérite d'être posée au regard de certaines décisions prises ces jours-ci par quelques ministres concernant leur département et qui sont cassées par le Premier ministre Alain Roux pour plus en plus de détails.
Lorsque, par exemple, Madame la ministre des Transports suspend l'ADG de l'EGFM ou le directeur de l'aviation civile, c'est le Premier ministre qui casse cette décision. Étant le ministre de l'Enseignement supérieur, suspend le comité de gestion de l'UPN, Université Pédagogique Nationale, c'est encore le Premier ministre qui n'est pas d'accord. En plus que ce week-end, c'est la décision de Madame la ministre du portefeuille suspendant le PCA et l'ADG de la SONAL, Société Nationale de Loterie, qui a été mise en mal par le Premier ministre. Et la décision du Premier ministre lui-même met enfin en contrat de Jean Assis, ADG de la RVA, a rencontré une opposition au cabinet du président de la République. Alors, quelle lecture peut-on faire de ce dysfonctionnement au du gouvernement congolais? Pour les députés de la majorité présidentielle Kibangu Kalala, c'est un spectacle désolant que les membres du gouvernement doivent éviter au peuple congolais. Du côté opposition, on estime que c'est la conséquence non seulement de l'absence du conseil des ministres, mais aussi d'une équipe gouvernementale qui n'a pas une vision commune. C'est en tout cas ce que pense le député Clément Kankou, coordonnateur de l'Union pour la Nation. À la primature, par contre, on reproche les ministres de ne pas suivre la procédure requise avant la prise des décisions. C'est ce qui pousse le premier ministre a frappé d'annulation toutes les mesures prises par ses collaborateurs.
Merci Alain Hong, Maître Tsunda Yakasende, vous êtes député national de la majorité et membre du comité exécutif du PPRD chargé du processus électoral. Ces derniers jours, on assiste à une situation qu'on ne sait pas qualifier. Des ministres prennent des décisions, le Premier ministre classe ses décisions. Le Premier ministre prend une décision, c'est le cabinet du chef de l'État qui casse la décision. Comment vous expliquez cette situation?
Bon, cela ne devrait pas vous étonner.
Comment ça?
Ça ne doit étonner personne, parce que tout simplement, je crois que ce n'est pas la c'est pas seulement une culture au niveau du Congo. Ça peut arriver dans n'importe quel pays. Ça peut arriver parce que les autorités subalternes travaillent, n'est-ce pas, sous le contrôle, sous l'encadrement, hein, des autorités hiérarchiquement supérieures. Donc cela peut arriver qu'un ministre a posé un acte et le premier ministre, qui est le coordonnateur du gouvernement, il peut, en vérifiant l'acte en question, estimer qu'il doit le réformer.
Est-ce que ces décisions-là ne se discutent pas au sein du Conseil des ministres?
Non, la plupart des décisions telles que celles que je viens d'entendre ici, je n'ai pas eu connaissance du cas de la Sonal. Pour l'UPN, j'ai suivi comme tout le monde un peu de manière brève, mais ce sont des actes de gestion courante. Donc tous les actes, il ne faut pas vous imaginer, ou bien l'opinion ne doit pas croire que lorsque un ministre doit suspendre un mandataire, il doit nécessairement que ce soit à l'occasion d'un conseil de ministres, et surtout si, pendant ce temps, compte tenu de la gravité des faits, et qu'il n'y a pas eu une réunion du gouvernement, je crois que le ministre peut prendre ses responsabilités. Et le premier ministre, à son tour, lorsqu'il estime que cette action a été prise en violation de certains textes, je crois qu'il peut réagir. Donc là, en fait, nous devons arriver à quoi? Nous devons arriver à considérer que lorsque le premier ministre agit dans des conditions telles que c'est décrit tout à l'heure, c'est parce qu'il veut s'assurer, n'est-ce pas, du bon fonctionnement du gouvernement dont il assure, du reste, la coordination. Donc, il ne faut pas que ce fait-là fasse l'objet, n'est-ce pas, d'une dramatisation outre mesure.
Et donc, pour vous, c'est une situation normale,
hein? Ce n'est pas ce que je dis. L'idéal aurait été que, parce que les ministres ont chacun leurs attributions, n'est-ce pas, telles que fixées par les différents textes qui régissent l'organisation et le fonctionnement du gouvernement. Donc, l'idéal serait que chaque ministre agisse dans le cadre de ses compétences. Mais ça peut arriver également que tout en exerçant ses prérogatives dans le cadre des compétences qui sont reconnues à un ministre, il y ait un abus. Donc, moi, je ne dis pas ici que tous les abus qui seraient commis par les ministres sont normaux. C'est pas ça que j'ai dit. Mais j'ai dit que ça peut arriver. Et lorsque cela arrive, si le ministre lui-même n'a pas corrigé l'acte qu'il a posé et qui est considéré comme étant un abus, eh bien le premier ministre peut réagir.
Est-ce que nous allons prendre cette question pour vous qui nous vient de Placide Nzenza depuis la Suède?
Placide Nzenza depuis Stockholm en Suède. Est-ce que Maître Célestin Tunda Yarkafende peut-il nous expliquer dans la réponse du premier ministre à ce ministre la procédure requise à suivre par le ministre et membres du gouvernement avant la prise de décision en avance des réunions du Conseil des ministres où tous les problèmes qui touchent à la gestion sociale du pays devraient être discutés? Pourquoi le premier ministre n'interpelle-t-il pas ce ministre avant cette vague de contre-décisions qui affaiblissent l'autorité de ce ministre vis-à-vis des personnes ou institutions concernées ou frappées par cette décision prise par le ministre?
Merci, Sonda.
Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Il y a des questions, n'est-ce pas, d'intérêt national, parce que notre ami qui est en Suède parle du social. Le social, c'est un domaine important qui intéresse la population. Donc, il y a des matières essentielles, des matières importantes qui doivent nécessairement être discuté en conseil des ministres. Cela va de soi. Mais ce que je disais tout à l'heure à notre ami, c'est qu'il y a des actes de gestion courante. Il y a des actes d'administration, des actes de gestion courante, en fait, que le ministre pose au jour le jour. Parce que si on devait attendre que même lorsque le ministre doit pousser, il doit d'abord se référer au conseil des ministres, eh bien, il n'y aurait pas fonctionnement du gouvernement.
Mais c'est aussi quelqu'un, ce n'est pas une petite décision.
Ici, il n'y a pas de révocation ici.
Suspendre, c'est pas une petite décision, M. Sonda.
Ici, il n'y a pas de révocation, il y a eu des suspensions. L'idéal, et j'estime pour ma part, lorsqu'il s'agit d'un mandataire, que le ministre peut amener le dossier en conseil des ministres. Mais je ne crois pas que du point de vue du droit administratif, vraiment pour la suspension. La suspension, c'est une mesure conservatoire. C'est une mesure conservatoire. Donc, le ministre, s'il y a gravité des faits, il peut prendre une décision, quitte à ce qu'il informe le conseil. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas non plus paralyser, parce qu'il est dit ici, je crois que j'ai la loi ici sur c'est l'ordonnance 07 du 3 mai 2007, qui dit que le ministre est responsable de son département. C'est l'article 14.
le ministre est responsable de son département. Ça dit tout. En tout cas, il y a des conséquences d'ordre juridique qui découlent, n'est-ce pas, de cet article. Et l'article ajoute, il applique le programme gouvernemental dans son ministère sous la direction et la coordination du Premier ministre. Là également, il y a les conséquences d'ordre juridique. Donc, on ne peut pas interdire à un ministre de poser des actes, de gérer correctement, je dis bien de gérer correctement son ministère. Mais lorsqu'il s'écarte, là aussi, il faut accepter que lorsqu'il s'écarte, et que lui-même dépasse sa conscience, il ne revient pas à la raison pour corriger l'acte qu'il a posé, qui serait considéré comme un abus. Prenez le cas, on a parlé du cas de... On a parlé du cas de Lupin. Le ministre a pris une décision. Bon, vous comprenez que cette décision, le ministre est de bonne foi. Le ministre peut être de bonne foi. Mais comprenez les conséquences, l'impact de cette décision au niveau de l'opinion, au niveau de la population. Et donc là, vous n'allez pas dire non, le Premier ministre ne peut pas réagir.
Merci, Maître Tunda. Jean-Luc Mboussa, vous êtes député national de l'opposition et secrétaire général adjoint du MLC chargé de l'idéologie et programme. Comment vous percevez cet état de choses au sein du gouvernement congolais?
Merci pour l'invitation. Je voudrais d'abord rappeler à l'opinion et à tous les Congolais que des actes comme ceux-là sont devenus systémiques. Ils se posent de manière systématique. Et des exemples sont légion. Je vous donne le cas du ministre d'État après le président de la République et l'ancien ministre à l'époque, et l'ancien ministre des Transports et des Communications, le ministre d'État à la présidence, qui donne instruction au ministre des Transports et des Communications, faisant outre les décisions du premier ministre. Un dysfonctionnement. Je vous donne le cas de la RVA aujourd'hui, où le premier ministre constate la fin du contrat. La présidente de la République intervient pour considérer que la décision du Premier ministre n'est pas valable. Je vous donne le cas du contrat chinois, où un ministre des ITPR, d'abord la présidence va négocier le contrat au lieu place du gouvernement, et le ministre des ITPR de l'époque, il va signer le contrat au lieu du gouvernement, alors qu'il n'était pas attitré pour cela. Les cas sont nombreux, c'est devenu récurrent, c'est devenu systématique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, il est clair, il se pose un vrai problème de dysfonctionnement du gouvernement. Mais, le collègue vient de parler tout à l'heure, donnant des explications en rapport avec la responsabilité des uns et des autres. Mais je voudrais rappeler qu'il y a des instances au travers desquelles et le président de la République, et le premier ministre, ou le gouvernement en tant qu'institution, collaborent. Parce qu'ici, il y a deux cas. Il y a des cas d'interférence ou de confusion entre le cabinet du président de la République et le gouvernement. Il y a des cas où le premier ministre contredit les décisions des ministres et le ministre contredit les décisions du premier ministre. Je vous donne les cas de l'OCPP par exemple, où il y a un switch qui a été acheté depuis des années et un ordre est donné pour pouvoir utiliser ce switch qui a coûté 60 millions à la République démocratique du Congo, un contre-ordre est donné pour ne pas utiliser le switch. Il y a confusion entre le premier ministre et le ministre des PTT et les comités de gestion. Au sein du comité de gestion, les contradictions. Les personnels magasinent l'énergie. Confusion entre le premier ministre, la présidence de la République et le comité de gestion. Donc nous sommes dans un cas non seulement de dysfonctionnement, mais aussi de confusion au niveau des institutions de la République. Mais je voudrais donc dire qu'il y a des instances dans un système classique où ces questions devraient être réglées. Je me demande à quel gouvernement un ministre va suspendre un mandataire public sans faire rapport à son premier ministre. D'abord, en rapport avec les relations hiérarchiques, les collègues ont indiqué tout à l'heure dans les textes, que le Premier ministre coordonnait le gouvernement. Le ministre agissait sous la direction du Premier ministre. Ça veut dire donc que dans un système de fonctionnement normal, il est requis que le ministre fasse rapport à son Premier ministre à défaut d'un conseil des ministres, d'une part. D'autre part, il y a des commissions techniques au sein du gouvernement où on analyse un certain nombre de choses avant de prendre des décisions et les décisions sont réfléchies. Troisième instance, c'est le conseil des ministres. Madame, combien de fois, depuis le début de cette année, le conseil des ministres s'est réuni? On a tué les étudiants de l'université de Kinshasa. Un cas aussi grave que celui-là. Le conseil des ministres s'est réuni quel jour pour parler de... Donc, si vous faites des statistiques par rapport aux réunions des conseils des ministres, instances compétentes pour régler de manière harmonieuse et cohérente et prendre de bonnes décisions, ces conseils ne sont jamais ou irrégulièrement tenus. Voilà les problèmes.
Et donc, cette situation, le manque des rencontres ou de conseils des ministres peut être à la base de cette situation.
Alors, moi, je dis qu'il y a un vrai dysfonctionnement du gouvernement. Qui s'explique par quoi, madame? C'est un péché originel. La conception du pouvoir. À quoi sert le pouvoir? Quelle est la finalité du pouvoir? Est-ce que c'est la quête du bien commun? Ou c'est la préservation des intérêts privés? Ou c'est la création du clientélisme politique? Si on se met d'accord sur la conception et la finalité du pouvoir, on est à l'aise pour débattre de cette question. Lorsque nous sortons des élections en 2006, madame, des associations se créent, des coalitions se créent autour de quoi? Vous avez des libéraux, vous avez des communistes, vous avez des socialistes, etc., et des indépendants, qui se mettent d'accord autour d'un projet, c'est lesquels? Le partage du gâteau, le partage du pouvoir. Quel sera président? Tel autre premier ministre? Tel autre vice-premier ministre? Or, cette coalition devait être fondée sur un projet, une vision partagée de la République. Et aujourd'hui, à la quête des intérêts privés, il y a des ministres qui apparaissent comme des super-ministres, qui outrepassent leur pouvoir, qui décident sans tenir compte de la vie du premier ministre. Nous avons dénoncé le gouvernement parallèle. À la quête des intérêts privés, vous avez...
Donc vous pensez qu'il y a un gouvernement parallèle qui existe, on aura besoin de...
Je ne voudrais pas parler du gouvernement parallèle, je voudrais parler des centres d'impulsion qui sont différents du gouvernement. N'est-ce pas? Il y a des personnes au sein du gouvernement qui dépendent d'autres centres d'impulsion. Comment voulez-vous que lorsque un gouvernement a décidé, ou lorsque le premier ministre prend une décision, que la présidence de la République puisse en décider autrement? Je vous donne un autre cas, madame, et nous avons dénoncé ça au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsqu'un directeur de cabinet du président de la République décide que la procédure financière qui est fixée par la loi financière ne puisse pas être respectée, c'est-à-dire le ministre compétent du département engage, le ministre du budget liquide, le ministre des finances ordonnance, la Banque centrale paye, et avant le paiement, qu'il le dépasse par la présidence de la République. Il y a un vrai problème. Les problèmes ne se posent pas en termes des effets mécaniques. Les problèmes se posent en termes de conception du pouvoir, de la logique du pouvoir et de la pratique du pouvoir, qui ne vise pas les finalités républicaines, c'est-à-dire la production de services publics de qualité, mais plutôt la production des intérêts privés pour les acteurs au pouvoir.
Merci, honorable Jean-Lucien Boussa, professeur au Moïla Tchiembe, vous êtes analyste politique et directeur de l'Institut panafricain de géopolitique des Nancy en France. Quelle analyse vous faites, vu de l'extérieur, de la situation qui s'est vue au sein du gouvernement congolais? Pour l'honorable Jean-Lucien Boussa, il estime qu'il y a une confusion, il y a un dysfonctionnement au sein des institutions de la République. Maître Tunda du PPRD estime, demande de ne pas dramatiser la situation. C'est des situations qui peuvent arriver. Comment vous analysez, vous, cette situation?
Je pense qu'il ne faut pas dramatiser, c'est vrai, mais il faut au moins indiquer, comme les collègues ont procédé tout à l'heure, par préciser trois choses. La première chose, c'est que au-delà des hommes, parce qu'il ne faut pas non plus ramener le débat sur les personnes, mais en termes de principes à la fois de sens politique et de droit, la première cause de ces dysfonctionnements est l'absence de la culture du gouvernement. Vous savez que notre pays, contrairement à la légende, n'a jamais eu, depuis l'école 2, un gouvernement au sens des capacités d'agir, des capacités de faire, d'interdire de faire. Autrement dit, depuis l'école 2 a gouverné par l'intermédiaire des gouverneurs généraux ou gouverneurs généraux à partir de l'école 2, il n'a jamais mis les pieds au Congo. Depuis l'indépendance de notre pays, le premier ministre qui a été élu démocratiquement pour prendre la direction du gouvernement dans le système politique de l'époque, Lumumba, si on peut bien le qualifier, n'a même pas gouverné pendant 5 jours pleins devant son bureau tentant d'appliquer son programme du gouvernement. Moïse Tshombe, qui a gagné les élections en 65, n'a même pas eu une seconde pour mettre en pratique le projet pour lequel il avait été élu à cause du coup d'état de Mobutu. L'autre premier ministre qui avait été plébiscité par la Conférence nationale souveraine, M. Félix Tshisekedi, n'a jamais même pas eu quelques secondes pour gouverner et appliquer son programme du gouvernement. Donc, jusqu'à ce jour, notre pays a connu des chefs d'État. Les Foïdé, roi de Belge, Mobutu, président du Zaïre, que vous avez connu, le président Laurent Désiré Kabila, dans les conditions que vous connaissez, il a été tué sans qu'il ait même le temps de s'occuper de ce qu'il voulait faire, de libérer le Congo. Et lorsque Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en 2001, la première démarche a été de finir avec, de créer les conditions de la paix, partager le pouvoir avec les rébellions. Et le moment où il fallait gouverner, c'était ce qu'on appelait le gouvernement de transition 1-4. Il n'y a pas eu de gouvernement au sens du terme. Et lorsque les élections ont été gagnées en 2006, le président de la République a été échaudé par la situation dans laquelle ces élections sont terminées et a eu acte non seulement de privilégier la question de gouvernabilité, mais plutôt d'assurer la permanence du pouvoir, c'est-à-dire éviter qu'il y ait crise dans le pays, etc., compte tenu des conditions dans lesquelles les élections sont déroulées et surtout la période post-électorale. Résultat, l'enjeu du pouvoir a été de maîtriser sa coalition et de permettre à travers cette coalition d'avoir un gouvernement dans la durée. Donc, la culture du gouvernement manque, non pas parce que les hommes ne veulent pas, mais il n'y a pas de référentiel de culture du gouvernement dans notre pays. Et le deuxième élément, c'est bien sûr le système politique lui-même. Quand on vit ici ou ailleurs, dans un système parlementaire, le gouvernement, le premier ministre, comme le gouvernement, la constitution le dit, est le chef du gouvernement. Mais quand il est dans un système parlementaire, il a son projet démocratique ou son projet de société sur lequel il a été élu, il l'applique, il a sa majorité. Or, dans un système semi-présidentiel comme celui de notre pays, c'est le chef de l'État qui est élu, en principe, comme président de la République, sur un projet, et le Premier ministre relève de la majorité présidentielle. Donc, il ne peut pas de lui-même avoir une capacité de gouvernement, même si en principe la Constitution lui reconnaît la qualité de chef du gouvernement. Donc, depuis 60, après la paralysie du gouvernement de Lumumba et de Kasavubu, Mobutu a gouverné par la présidence de la République, c'est-à-dire par son cabinet. Et les moments les plus forts du gouvernement de Mobutu, c'était l'intelligence des hommes de son cabinet, notamment du Sengimana. Et depuis que Sengimana avait quitté le cabinet de Mobutu, on sait ce qu'il en est devenu. Donc, dans ce système, on le voit même ici en France, le gouvernement de la République ici, c'est réellement dans les mains du cabinet du président Sarkozy, même si le Premier ministre existe, il a des pleins pouvoirs, qu'il exerce, etc., etc. Donc, il y a ce fait-là, au-delà, bien sûr, de la particularité du Congo, il y a ces deux phénomènes, l'absence de culture du gouvernement, dont on n'a pas la référence dans notre pays, et l'immunité du système politique qui fait que le président de la République, tous les présidents, gouvernent à travers leur cabinet, mais le président de la République n'est pas un gouvernement au sens constitutionnel du terme, mais celui qui est chef du gouvernement au sens constitutionnel n'a pas de pouvoir particulier parce qu'il rêve de la majorité présidentielle, donc il dépend du chef de l'État. Donc cette ambiguïté qui fragilise la qualité même du gouvernement est aggravée effectivement dans le cas de notre pays par cette absence d'abord de l'administration, l'idée même qu'il n'existe pas de la hiérarchie, l'absence même de la responsabilité du Conseil des ministres comme lieu de ses habilités de décision collective du gouvernement, c'est le seul le lieu de la coordination. Oui, pour les conférences, dans la région où ces conseils des ministres ne se tiennent pas souvent, et quand ils se tiennent, le gouvernement ou le Premier ministre ou le gouvernement dans l'ensemble, les délibérations parfois ne se font pas ou se font dans certaines conditions, tout ceci fait que, effectivement, au-delà de problèmes des hommes, il y a des questions structurelles qui empêchent totalement le pays d'avoir une véritable culture de gouvernement et d'avoir une système rationnel.
Merci, professeur. On va prendre pour vous cette question qui nous vient de Bukavu.
Robert Mahomet, de Bukavu, au Sud-Kivu. Il n'est pas surprenant qu'il y ait aujourd'hui contradiction flagrante entre le premier ministre, chef du gouvernement, et certains ministres quant à la prise de mesures nécessaires pour le pays. C'est sans doute soit le résultat de l'absence d'action concertée entre les ministres, soit carrément le résultat de l'absence dans le chef du premier ministre de pouvoir bien jouer son rôle et coordonner toutes les actions du gouvernement.
Professeur Moïla, en une minute, comment vous répondez à la préoccupation de Robert Bahomé?
Bah évidemment, ça rejette ce que nous venons de dire tout à l'heure. Il y a des dysfonctionnements que personne ne conteste. On peut les expliquer soit parce que la hiérarchie n'a pas été respectée, et cette hiérarchie peut être respectée que quand il y a le conseil des ministres. Parce que le conseil des ministres est le lieu de coordination. Les ministres sont responsables. Ça a été indiqué tout à l'heure par le premier intervenant. Les ministres sont responsables de leur action. Mais cette action doit être coordonnée au niveau du conseil des ministres pour pouvoir lui donner une certaine rationalité pour éviter, évidemment, ce à quoi on assiste, qui est tout à fait déplorable, évidemment.
Merci, professeur Moïla Tshiembe, maître Tunda Yakasinde. Vous avez suivi dans la plupart des interventions de nos invités. On revient sur le manque de conseils de ministres. Est-ce que vous êtes de la majorité du PPRD? Est-ce que vous êtes au pouvoir, donc? Est-ce que les conseils des ministres se tiennent encore?
Oui, je crois que pas plus tard qu'il y a une semaine, si je ne me trompe pas, il y avait une réunion du conseil des ministres. Mais ce qu'il faut souligner ici, je pense, ce qui est important, c'est vrai, il y a des problèmes, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, d'intérêt national qui doivent nécessairement être délibérés en conseil des ministres. Mais ce qui est important, c'est le travail de tous les jours des ministres. Ne croyez pas que le pays est géré, administré seulement par les conseils des ministres. Et c'est pour ça que dans tous les pays du monde, n'est-ce pas, on cherche à avoir des ministres de qualité. Parce que lorsqu'on a des ministres de qualité responsables, on ne peut pas se plaindre, n'est-ce pas, qu'il y ait réunion ou pas réunion. Et deuxièmement, dans le cas de notre pays, il y a ce qu'on appelle des commissions. Par exemple, la commission socio-culturelle, la commission économico-financière, ou la commission politique administrative, et j'en passe. Et toutes ces grandes commissions-là sont gérées par des vice-premiers ministres. Et à ce niveau-là, ce sont des ministères, qui sont regroupés, n'est-ce pas, par secteur, par affinité de secteur, économico-financière, socio-culturel, ainsi de suite. Et à ce niveau-là, il y a du travail de chaque jour qui se fait autour du vice-premier ministre. Donc, il ne faut pas qu'on ait l'impression que le gouvernement ne travaille pas, ou alors qu'on donne l'impression à notre peuple, à l'opinion qui nous suit de loin, n'est-ce pas qu'il n'y a pas de travail au niveau du gouvernement? Il y a un travail qui s'est fait. La preuve, madame.
Donc, c'est à votre commission, vous n'avez pas le conseil des ministres?
Non, je ne dis pas ça. Il ne faut pas chaque fois me dire ce que je ne dis pas. J'ai dit que le travail, disons, les réunions du gouvernement, c'est une chose. Mais il y a des travail au niveau des commissions qui se font à la commission économico-financière ou dans d'autres commissions. La preuve que le gouvernement travaille, madame, je crois que c'est ses challenges que le Congo a remporté avec l'atteinte du point d'achèvement. On ne peut pas arriver à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas un travail qui n'est pas fait. Là, quand même, nous devons être honnêtes. Parce que nous, les Congolais, le professeur Tshiembe parle de culture. Mais aussi, le malheur chez nous, nous avons cette culture de ne pas reconnaître les faits positifs que nous-mêmes, n'est-ce pas, nous réussissons, que nous, des actes que nous prenons qui sont positifs. Et quand il faut que c'est positif, et ça, du nationalisme, nous devons le reconnaître. Et d'autre part, je voudrais un peu atterrir le professeur Tshiembe. À la limite, je crois qu'il a été sur toute la ligne d'accord avec moi, parce que il a évoqué le cas de la France, avec l'exemple de Sarkozy, avec le gouvernement d'un côté et la présidence de l'autre. Donc on ne peut pas dire que le problème se pose seulement ici. Et deuxièmement, mon ami Lucien Boussa, qui est un des députés que je respecte beaucoup, c'est un ami, quelqu'un qui a une grande personnalité, et qui est brillant dans ses interventions. Lorsqu'il a donné tous les exemples qu'il a énumérés ici, mais la question qu'on peut lui poser, c'est de savoir, monsieur le député, est-ce qu'il faut attendre une émission de Okapi pour venir vous plaindre de tous ces cas? Parce que vous êtes député, vous avez une autorité suffisante qui vous permet d'agir au niveau de l'Assemblée nationale et en dehors de Mag Energy, tous les autres cas ici. Je n'en ai jamais entendu parler au niveau de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, je voudrais lui donner un exemple. Je voudrais lui donner un exemple important. J'ai été gestionnaire dans ce pays. J'ai géré, n'est-ce pas, la Société nationale pétrolière. Un jour, je me réveille, j'étais à la tête de l'entreprise, j'apprends que tous les comptes de l'entreprise sont bloqués, que tous les produits de Cohydro, donc de la Société nationale, sont saisis, et tout le personnel dehors, personne ne peut pas travailler, et les bateaux sont bloqués, ils ne peuvent même pas transporter les produits à l'intérieur du pays. Eh bien, on se demande de quoi s'agit-il.
Eh bien, on reçoit la réponse, non, c'est l'ancien vice-premier ministre chargé du secteur économique à l'époque de la transition, qui a saisi tout ce bien de l'entreprise. Mais c'était étonnant. J'ai dû recourir auprès d'un autre vice-premier ministre, c'est Yero Diadombassi, pour qu'il prenne la décision, n'est-ce pas, de pouvoir lever la saisie sur tout le bien. Donc c'est pour vous dire que si aujourd'hui on dit qu'il y a des petits cas qui peuvent arriver, des ratés, n'est-ce pas, des incidents, ce n'est pas seulement le fait de ce gouvernement aujourd'hui. Ça, on a connu ces cas-là, même au moment de la transition, et les professeurs de 1 plus 4 et les professeurs de CMB, ils viennent même de vous donner un exemple de comment les choses se passent également en France. Donc, c'est pourquoi je conclue en disant qu'il ne faut pas dramatiser ce qui se passe. Toujours est-il qu'il y a des correctifs qui interviennent.
Merci, Maître Tonda. Jean-Lucien Boussard, vous allez répondre à la préoccupation de Maître Tonda. Mais avant cela, prenons cette question du Bas-Congo, qui va aussi dans le même sens que la question de Maître Tonda.
Samba depuis Mwanda dans les Bas-Congo. Je voulais juste savoir si cela n'est-il pas le tâtonnement politique, parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent faire quoi, cela. Je me demande même comment nous envoyer au Parlement, non pas si faire partir même un ministre de ce gouvernement et causer l'idée, mais quel est le départ, gouverneur et président des assemblées provinciales, soit si facile.
Honorable Jean-Lucien.
Merci madame. Je voudrais qu'on reprécise les choses. Le problème, c'est qu'il y a un gouvernement et une présidence de la République qui sont en permanence collusion, qui sont dans la confusion, qui n'agissent pas de façon coordonnée, cohérente. Voilà le problème. Pourquoi le problème est-il problème ? Le problème est problème parce qu'il y a un problème de leadership. Le problème est problème parce qu'il y a un problème d'intérêt privé. Le problème est donc problème parce qu'il y a des groupes d'intérêt au sein des institutions. Parce qu'un certain ministre sont protégés par des groupes d'intérêt plus puissants qui leur donnent la décision dans un sens comme dans un autre. Voilà pourquoi le problème est problème. Le problème n'est pas le choix du régime semi-présidentiel. Pas du tout. En France, il y a ce régime semi-présidentiel. Mais la gouvernance est correcte. C'est un problème de bonne gouvernance. Quand on veut la bonne gouvernance, qu'on soit dans un royaume, qu'on soit dans une république, qu'on soit dans un système comme le système chinois, on arrive à des résultats probants et on évite la cacophonie et la confusion. Mon collègue, que je respecte beaucoup aussi, me pose la question, mais ce n'est pas dans un débat comme celui-ci qu'on doit poser les problèmes de la République. Non, je pense que le peuple a besoin d'être informé. Par ailleurs, en tant que député national, ce n'est pas mon collègue qui me poserait cette question. Il sait très bien que lorsqu'il y a eu confusion avec l'accident de crash de Kinshasa, entre le ministre d'État et le président de la République, le ministre des Transports, c'est Jean-Lucien Boussa qui a interpellé le ministre. C'est la majorité qui a refusé de sanctionner. Quelques exemples rapides. Lorsqu'il s'est posé la question de la confusion par rapport au prix du passeport biométrique, c'est encore son collègue ici présent, Jean-Lucien Boussa, qui a posé le problème. Et on a trouvé la réponse au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on a interpellé le Premier ministre, c'est Jean-Michel Boussa qui a interpellé le Premier ministre, et vous savez à quoi cela a retourné, n'est-ce pas? Il y a eu un dernier rapport sur le contrôle parlementaire de la commission Econfine, avec les scandales financiers, n'est-ce pas, dans lequel on relève des incohérences, et même le dysfonctionnement du gouvernement. Qu'en est-il arrivé? Les cours des tribunaux, le Parlement lui-même, vous savez dans quelles conditions le dossier a été conclu. Donc, je pense qu'ici, il y a une question de leadership, comme j'ai indiqué. Il y a une question de gouvernance économique, politique, sociale. Il y a une véritable question de responsabilité politique. Qu'est-ce qu'on veut? Où on veut aller? N'est-ce pas? Il y a une question, et la question que j'ai toujours indiquée, celle de l'élite. La problématique de l'élite congolaise, c'est quel type d'élite? Est-ce que c'est une élite qui arrive? Et là, c'est la responsabilité partagée de toute l'élite, celle qui est au pouvoir, celle qui est dans l'opposition. Est-ce que notre responsabilité en tant qu'élite est celle de mener le peuple dans le mieux-être, ou notre responsabilité, c'est partager les gâteaux nationaux et considérer que ça va bien? Lorsque mon collègue parle du point d'achèvement, on n'est pas ici pour parler de l'état de la nation. Mais je viens lui poser la question de savoir, mais vous savez que tout le monde est pauvre dans ce pays. Vous savez que les salaires des Congolais sont misérables. Oh, non, je n'arrive pas. s'il y a des gens, on aura une catégorie de gens qui profitent de la République, c'est la classe politique, tout simplement. Et donc, je vais dire simplement ceci, si le débat était celui de dire quel est l'état de la nation, je dirais à mon collègue, les deux hôpitaux composés par les gouvernements par territoire ne sont pas encore construits à ces jours. Les deux écoles publiques, plutôt l'hôpital de 150 000, les deux écoles publiques ne sont pas encore construites à ces jours. Donc, le débat est là. Et nous assumons notre responsabilité.
Merci, honorable Jean-Luc Yamboussa. Juste temps pour moi de rappeler que nous, toutes nos démarches sont restées vaines pour avoir dans cette émission un membre du gouvernement et de la primature, professeur Moïla Tiembe. Et à cet auditeur, Jean-Claude Mouroula de Bukavu, citez-vous, qui dit ceci. Pour moi, cette cacophonie est conforme au schéma logique d'un gouvernement où les intérêts privés des dirigeants priment sur l'intérêt collectif. Plus on s'approche des élections, plus sa cacophonie sera encore plus grande. Chacun essaie de un décor qui puisse renforcer son positionnement politique et financier pour les élections. Professeur Moïla.
Évidemment, madame, si vraiment les choses sont telles que le dit cet intervenant, c'est-à-dire pour relever aussi ce que vient de dire le député de l'opposition, si vraiment on a la preuve qu'il ne s'agit pas de dysfonctionnement normal de l'administration ou du gouvernement, qui est reprochable, c'est vrai, mais qui peut relever du travail des hommes. Et en revanche, s'il s'agit de la mise en cause de l'intérêt général, du bien public, c'est-à-dire qu'il y a les membres du gouvernement qui, sciemment, créent la cacophonie pour protéger les intérêts privés au détriment de l'intérêt général du bien public de la République, c'est quelque chose de très grave. Je ne sais pas si il y a la matérialité derrière, s'il y a des faits concordants pour pouvoir tenir une telle accusation. Parce que c'est quelque chose de très grave. Qu'il y ait du fonctionnement au sens administratif du terme, absence de hiérarchie, absence de culture politique, on peut l'expliquer. Mais si cette cacophonie est liée au fait qu'il y a trafic d'intérêts, au sens que ceux qui participent à ce trafic, ils le font au détriment du Congo et de ses intérêts, et en faveur de leurs intérêts propres, c'est quelque chose de tout à fait grave et de scandaleux. Je ne pense pas personnellement qu'on en soit là. Si on y était, ce serait encore très grave que le dysfonctionnement dont nous parlions tout à l'heure.
Merci, professeur. Nous tournons vers la fin de cette émission. Je vais vous demander d'être bref dans vos réponses. Maître Kindaya Kassende, comment vous entrevoyez l'avenir de ce du gouvernement congolais avec ces genres de contradictions?
Oui, j'ai dit au début qu'il ne faut pas dramatiser. Et surtout, il faut qu'on rejette des propos tels qu'il y a la confusion. Il n'y a pas du tout de confusion. Je dis bien qu'il y a des incidents qui peuvent arriver, n'est-ce pas?
Il y a ni confusion ni dysfonctionnement.
Bon, utilisez le mot que vous voulez. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas de confusion du tout. Le gouvernement travaille comme il faut et nous sommes en train d'arriver à des résultats positifs. J'ai entendu mon ami à ma droite, Lucien, qui me dit « Ah non, voilà, nous parlons de quoi ici ? Nous parlons de beaucoup de choses, on a réalisé beaucoup de choses alors que… » Oui, mais j'ai l'impression que c'est de son côté, finalement, qu'il invoque des matières qui n'avaient rien à voir avec le sujet de l'émission. Il a parlé des rapports entre président et gouvernement, il a parlé de groupes d'intérêt au sein des institutions, il a parlé de la commission, rapport, commission financière, il a parlé de la gouvernance, bref, j'en passe, j'ai énuméré, j'ai… noter au moins 10 points qu'il a relevés qui n'ont rien à voir avec cette émission. Mais quand cela me tienne, je crois que pour ma part, c'est normal, ces points peuvent être invoqués parce que nous sommes dans un débat qui concerne le fonctionnement du pays. Mais là où je voudrais lui dire un mot en concluant, c'est que tout ce qui a été relevé d'assez, disons, grave, par exemple par la commission économico-financière, mais c'est le fait de la majorité, ce n'est pas l'opposition. C'est la majorité qui est nombreuse, et au sein de la commission financière, et même au sein de l'Assemblée nationale. Merci. Tout ce que nous avons relevé qui n'a fait pas, c'est non de la majorité.
Merci.
En ce qui concerne la gouvernance, voyez toutes les œuvres qui sont en train d'être réalisées. Et puis je vous dis, à l'époque de la transition, lorsqu'il y avait 4
administrations,
en un mot, j'ai dit, mes amis qui étaient à l'Équateur, vous savez qu'ils ne savaient même pas payer les fonctionnaires. Et lorsque Kinshasa a envoyé l'argent pour payer les fonctionnaires, cet argent n'a pas été rétrocédé aux fonctionnaires.
c'est encore nous ici à Kinshasa qui se soucient même de leur administration.
Merci,
donc je vois que de leur côté, il n'y a pas de leçon à recevoir.
Merci, monsieur Luna. Jean-Lucien Boussa, comment vous entrevoyez l'avenir de ce gouvernement?
Non, j'ai pas envie de rigoler. Simplement, je veux dire ceci. De un, il y a un gouvernement qui a pataugé pendant 4 ans. De deux, il y a un gouvernement qui a montré à la face du monde qui n'était pas capable de pouvoir gérer en fonction des textes légaux, la constitution et les lois qui régissent le gouvernement. De trois, il existe des centres d'impulsion qui gèrent des intérêts privés, en tout cas, dont certains ministres se protègent. De quatre, il y a un problème de responsabilité. Quand les ministres sont cotés, ils sont protégés, et par la majorité, et par la présidence de la République, et par le gouvernement, simplement parce que la logique du pouvoir, la conception de ces pouvoirs, c'est la protection des intérêts privés au détriment des intérêts collectifs. Le choix qui est à faire aujourd'hui, c'est un choix alternatif simple, un nouveau projet, avec un groupe porteur de nouvelles valeurs, qui puisse remplacer le groupe qui existe aujourd'hui et qui a totalement mis la République dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire la misère.
Merci honorable Jean-Lucien. Professeur Moïla Tiebe, comment vous entrevoyez l'avenir de ce gouvernement?
Ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette cacophonie s'arrête et que, dans la mesure du possible, le peu de temps qui reste d'ici les élections, une certaine cohérence puisse être présentée aux Congolais dans la décision, dans l'efficacité de ces décisions. C'est le moins que l'on peut souhaiter, parce que ces cacophonies, ces dysfonctionnements, ne font qu'assombrir non seulement l'image du gouvernement, mais aussi l'image de notre pays, vu de l'extérieur, évidemment.
Merci, professeur Moïla Tiebe. Je considère cela aussi comme votre conclusion, parce qu'il me reste 2 minutes seulement pour mettre fin à cette émission. Mais surtout, dans votre conclusion en 1 minute.
Oui, la conclusion, c'est que le gouvernement de la République, il faut qu'on reconnaisse que il a posé des actions positives. Parce que si nous recevons, madame, le satisfecit même de la communauté internationale par rapport à notre gestion, à notre gouvernance, et que nous-mêmes, Congolais, ici à l'intérieur, nous ne puissions pas reconnaître cela, moi j'estime là que nous avons, je ne sais pas, c'est une culture alors qui est, excusez-moi le mot, drôle. J'estime ça vraiment drôle. Je crois que nous avons été reconnus comme performants au niveau international. Nous devons en être fiers. C'est vrai que l'opposition a un rôle à jouer, de critiquer. Mais là où c'est positif, je crois qu'il faut reconnaître,
merci.
Le Congo était par terre, pas du fait de son gouvernement. Les tissus économiques de ce pays étaient complètement améliorés, pas du fait de son gouvernement.
Président
de la République, le gouvernement, je crois qu'ils ont affronté tout le problème.
Merci, merci le message de passer notre conclusion. Vous avez compris, 30 secondes, votre conclusion.
Quand on arrive au pouvoir, on vient avec un projet, on vient avec une ambition, on sait ce qui existe dans le pays, dans le passé comme dans le présent et dans le futur. Je pense qu'on ne peut pas s'en expliquer pour son incapacité à pouvoir mettre le pays dans la trajectoire du développement.
Merci Jean-Lucien Boussa, ça a fallu cette émission. Merci à toute l'équipe du Dialogue entre Congolais, Guy Mathé, Alain Hung, Samuel Kachap, sous la supervision de Félix Kipela Mondo, William Mungamba était à la technique. Kéline Couture vous a présenté cette émission. Retrouvez-la sur notre site internet www.radio-okapi.net. Prédiffusion demain 14h15 heure de Kinshasa. Bon suivi de programme sur la fréquence de la paix.
Okapi, okapi.